Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour.
Alors ce ne sont pas nos ancêtres les Gaulois, mais ce sont nos ancêtres les Arabes. C'est le nom de votre livre aux éditions Jean-Claude Lattès. Quels sont les mots qui sont venus aux Français sur le bout de la langue arabe, ces mots et ces mets qui nous intéressent et que nous allons goûter avec vous?
Mais en fait, dès qu'on s'intéresse à un dictionnaire et qu'on commence à le consulter, y compris un dictionnaire pour enfants, de la lettre A à Z, on s'aperçoit très vite qu'on est tout entier dans des mots, s'agissant de l'alimentation, qui nous sont courants, mais on ne sait pas toujours qu'ils viennent de l'arabe. Je pense à l'abricot, je pense aux aubergines, je pense, alors on est à la lettre E, mais B, c'est la barde de lard, c'est le café, candide, E, ce sont les épinards, l'estragon, et puis un peu plus loin, L, limonade, on peut faire toutes les lettres, M, mocha, mousseline, O, évidemment, orange, P comme pastèque, potiron, S, sirop, sucre, ce qui fait que le matin, quand on prend une tasse de café avec zéro sucre et un jus d'orange, on ne s'en rend pas compte, mais on parle arabe.
Alors, Jean Pruvot, on va faire un petit abécédaire peut-être, on va faire ce voyage dans les mots. Alors, on a écouté une petite musique qui était celle de la chanson « Faut rigoler » d'Henri Salvador, hein, nos ancêtres les Gaulois, qui était un texte de Boris Vian. Si l'on pense à l'alcool, l'alcool c'est un mot alors qui vient de l'arabe mais par du curieux détour.
Oui, alors l'alcool, évidemment, le jeu de mots est assez... vilain de dire que ce sont les peuples qui repoussent la consommation d'alcool et qui en seraient, dans le fond, les premiers inventeurs en termes de mots. Mais c'est se tromper, parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'un faux sens. Alcool, on doit d'ailleurs percevoir, comme beaucoup de mots qui commencent par « al », qu'il s'agit d'un mot arabe, hein, « algèbre ». Beaucoup de mots se retrouvent avec, dans le fond, cet article « al », qu'on va retrouver en espagnol « elle », et qui explique qu'ils sont d'origine arabe. Alors, alcool, il faut comprendre « al » et un peu plus loin « col ». Et il faudrait imaginer, et non pas une boisson, mais en fait une poudre d'antimoine. Alors, on est assez loin de la notion d'alcool de vin, parce que en vérité, c'est un travail qui est fait par les alchimistes ensuite, pour désigner tout ce qui est le résultat d'une distillation. Et de cette distillation bien viendra ce mot « alcool », K2OL, cette poudre d'antimoine très grisâtre, dont on se servait aussi d'ailleurs pour que les cils soient plus
grands. Le col.
Voilà, et aujourd'hui les dames disent qu'elles passent du col sur leurs yeux. Bon, c'est pas de l'alcool, bien sûr. Et en réalité, il faut attendre quasiment le 19e siècle pour qu'on parle couramment de l'alcool de vin. Et Thomas Corneille, qui était le frère de Pierre Corneille, et qui lui aussi a été à la fois un écrivain mais en même temps un auteur d'un dictionnaire célèbre à l'époque, qui était un dictionnaire des métiers, des arts, des mots de métier, et le premier à parler de l'alcool de vin. Et on est en 1694.
Le mot sommelier aussi. Hein.
Oui, voilà. Alors on a affaire ici à des mots qui ont changé de sens et qui, si on les considère à travers leur joli parcours, bon, ont des origines nobles.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces mots voyagent, mais ils viennent souvent de plus loin, ils viennent d'Asie, ils viennent d'Iran, ils ont fait quasiment la route de la soie.
Oui,
souvent.
C'est presque ça, oui, c'est effectivement. Alors, c'est aussi ce que Ernest Lavis a su mettre en avant, c'est que le monde arabe a été véritablement un monde conquérant. et que tout le bassin méditerranéen était dominé par la flotte arabe après la conquête religieuse, et que, d'une certaine manière, qu'il s'agisse des ports de Venise, ou des ports espagnols, ou de la voie traditionnelle, évidemment, par l'Espagne, et bien toutes sortes de produits qui étaient cultivés ou bien qui étaient valorisés en bien Orient, sûr. Extrême-Orient, sont arrivés, dans le fond,
les morts par la mer.
Voilà. Voilà. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est extrêmement visible, parce que qu'il s'agisse des oranges, qu'il s'agisse des artichauts.
Alors, les artichauts, si on écoute, par exemple, le célèbre jazzman Artichaut dans Dr. Livingstone, I Presume, vous allez nous dire après de quoi il s'agit. Dr. Livingstone, I Presume, donc c'est une autre position du missionnaire qui est interprétée par Artichaut. Et alors, ce cher Artichaut doit son nom...
Alors donc, à un mot arabe, il a beaucoup voyagé. Hein, il faut y retrouver dans le Har, on est assez éloigné, mais enfin, il y a le Al qui est pas très loin. Et en arabe, c'était Al-Arsouf. Et aussi, alors je prononce sans doute assez mal, hein, Arsoufa, qui a été repris ensuite en Italie du Nord, et qui a repris une tonalité qui nous rapproche de ce che, hein, de cette voyelle palatale, Artichiocho, avec une prononciation qui déjà nous rapproche de l'artichaut de Bretagne, mais qui n'est pas de Bretagne, qui est vraiment du monde arabe. Alors ce gros chardon, dans le fond, dont on consomme la fleur, avec ce fond d'artichaut, évidemment, a tout de suite eu du succès. Hein. Voltaire, dans son discours, évoque les feuilles tendres et foisonnantes, et arrivent les expressions « une femme au cœur d'artichaut ». Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas eu beaucoup de mots d'amour qui sont passés de la langue arabe à la langue française, mais des mots culinaires qui vont avoir des résonances en amour, puisque avoir un cœur d'artichaut, c'est avoir toutes ces feuilles très tendres, et donc avoir une certaine tendresse en amour.
L'abricot, que chantait si bien Transgal.
L'abricot, alors lui, il y a une histoire encore plus complexe, parce que en définitive, cet abricot tient son nom d'un mot grec au départ. Ce mot grec voulait dire pré-cuit, c'est-à-dire que l'abricot a cette caractéristique d'être un fruit précoce avant les autres. Donc c'est d'abord le fruit précoce. Et derrière ce fruit précoce, il y a l'idée de cuit qu'on retrouve dans la fin de abricot, qui est cote, et il passe en arabe al-barkouk, puis va voyager par bateau, par aussi la possibilité de le cultiver, l'abricotier, dans nos contrées, et notamment par l'Espagne. Et il nous arrive avec sa tendresse, et là aussi, avec, disons, tout de suite, toute une série de formules qui vont être données dans nos dictionnaires du XVIIe siècle. C'est cela aussi que je souhaitais mettre en avant, c'est ce que nos dictionnaires du XVIIe siècle ont pu dire de ces différents plats ou de ces différents fruits.
Mais il y a aussi quelque chose d'important qui était que toute l'Europe est marquée par cette influence arabo-andalouse que l'on peut retrouver aussi musicalement. On parlait de l'alcool tout à l'heure, cette musique arabo-andalouse de Clair de Lune par exemple. Alors, il y a un mot qui a un drôle d'itinéraire aussi, qui est le mot bougie.
Oui, le mot bougie, par essence, est exactement comme la mousseline qui vient de Mossoul ou Gaza qui vient de la Gaze, mousseline qui donnera la purée. La bougie, c'est un lieu dans lequel, effectivement, on fabriquait cette sorte de chandelle. Et il y a eu très vite une sorte de luxe à utiliser des bougies.
Un lieu en Algérie.
Oui, en Algérie. Et il y a eu une sorte de luxe à utiliser des bougies plutôt que des chandelles, qui étaient évidemment les dites bougies de bien meilleure qualité. Alors les bougies, on les retrouve sur les gâteaux d'anniversaire.
Les bougies, on les trouve sur les gâteaux d'anniversaire, entre autres choses. Ça se chante aussi d'ailleurs, puisque André Rimbourg en a fait une très très belle chanson.
Sur ma moto, à qu'il fait beau, à que je file, et tout défile, mais tout à coup, pauvre, je suis en panne avec ma magnéto. De ma moto, je viens de griller la bougie, mais tout à coup, pauvre, arrive une Jeep que j'arrête aussitôt. Alors j'ai tout de suite demandé à Jimmy, oh Jimmy, avez-vous une bougie, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Boogie, 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 yes! Non, je lui dis, je vous ai pas dit boogie, non. C'est plutôt bougie, bougie, t'as compris?
Donc vous avez reconnu...
Oui, j'ai reconnu Bourville, bien sûr, avec ce charme, cette voix délicate et toujours un peu innocente.
Et ce sens de dénoncer toutes ces langues arabo-andalouses...
Ce qui est étonnant, finalement, quand on évoque tous ces mots comme artichaut, orange, abricot, etc., c'est qu'on les a totalement assimilés.
Digérés.
Et quand on dit que c'est la troisième langue d'emprunt, c'est un emprunt qui s'est fait, en gros, à partir du 9e siècle jusqu'au 12e, 13e. Et là, ce sont des mots qui vraiment, pour nous, sont totalement français. Et pour la plupart d'entre nous, c'est un étonnement quand on évoque ces...
Parce que quand on se souvient que Rabelais évoque le coscosson,
oui.
on reste aussi dans d'autres influences, puisque je crois que c'est un mot qui vient du berbère.
Oui, et qui était le couscous. Alors évidemment, il y a aussi une sorte de confusion parfois entre les mots qui viennent du berbère et qui viennent de la langue arabe. Mais les trois quarts des mots berbères ont ensuite été véhiculés par la langue arabe.
Mais alors si on continue à voyager dans ces mots, si l'on boit une tasse de kawa ou de mocha par exemple, qu'est-ce que ça nous donne ?
Alors, le mot café, évidemment, un mot qui pour nous est très important, puisque il est non seulement le nom d'un produit, mais il est aussi le nom d'un lieu. Hein. Alors, le moment du café, en fait, il faut avoir en tête que il y a d'abord eu un mot qui était kawé, kawa, qu'on va retrouver d'ailleurs plus ou moins quand il va être repris en arabe algérien au moment des conquêtes coloniales, et que les soldats vont revenir avec un mot qu'ils vont transformer en mot famille, mais qui était le véritable mot. Et il s'agit en fait d'une fève qui a d'ailleurs eu aussi le sens de la prononciation de café, C-A-F-E-H, tel qu'on essaie de l'orthographier, et puis qui est entré ensuite par le midi de la France, avec d'ailleurs des dépôts qui étaient installés, notamment sur Marseille. On pense que le premier café bu et le premier lieu où on a bu du café était Marseille. Et puis on sait comment, remontant...
Et là, on est à quelle époque ?
Là, on est au 17e, et remontant évidemment jusqu'à Paris, là, il devient un lieu privilégié pour les écrivains. Et on pense évidemment au Procope, par exemple, ou à des cafés de ce type, où là, c'est à la fois un médicament au début, une sorte d'excitant, puis après, un immense plaisir. Et on voit bien comment on en est resté au mot générique pour le mot arabe, parce qu'après, vous dissociez le café italien du café dit américain, ou de l'expresso français, ou même du ristrette, si on passe par l'Italie.
Et si on évoque toujours cette couleur du café, on peut aussi l'interpréter en flamenco.
Oui, sans doute, effectivement, avec une robe noire. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine, avec Alain Krugère.
Me gusta tu color café, y tu pelo café. Cuando bailas tú pa' mí, en tu cuerpo veo café. Tengo la necesidad de acariciar tu pie con el son de tu pulsera y el ritmo de tu cara.
Alors, vous avez reconnu Yéyé de Cadiz, qui chantait Serge Gainsbourg. Moi, c'est tout à l'inverse, mais... Donc, quand on continue dans notre abécédaire, il y a la lettre E, comme épinard.
Oui, comme épinard, estragon par exemple. Alors l'épinard est un joli mot parce qu'en fait, j'évoquais tout à l'heure le voyage des mots, berbère, arabe, et puis ensuite arrivant parfois directement en France, parfois en Espagne. Lui, il vient du persan. Il s'agit donc d'un mot persan qui passe ensuite en arabe d'Andalousie, puisqu'il y a un arabe dans le fond qui se développe en Espagne. Et le mot asfana, issu du persan, aboutit à isbinar, qu'on va retrouver en latin médiéval, spinacium. Et là, c'est l'attraction, dans le fond, des mots qui sont très proches de sonorités qu'on ne comprend pas forcément. En fait, on va le rattacher avec espinaja à l'espinarde, et c'est l'idée d'épine. Parce que, dans le fond, l'épinard a des sortes de cornes qui peuvent ressembler à des épines. Et à partir de là, le mot prend vraiment beaucoup d'ampleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot a aussi voyagé par l'Italie. Et que quand nous avons eu ce contact avec les Italiens, qui nous a donné aussi beaucoup de mots italiens, eh bien, Marie de Médicis aimait beaucoup les épinards. Et quand elle est venue en France, elle est venue avec ses recettes, et notamment les épinards à la florentine. Et bien sûr, ça a donné tout de suite un certain succès à cette plante qu'au début, on appelait l'herbe de carême, parce que on lui savait des vertus presque médicales, et grâce à Marie de Médicis devient une sorte de joli plat. Et alors on aura même sous Fabre d'Églantine, vous savez, qui avait lancé donc le calendrier, le 16e jour de Ventose. Ventose, ça allait en gros de février à mars, c'était appelé le jour de l'épinard. C'est un jour où il faut consommer de l'épinard.
Ça me paraît absolument essentiel, sauf sinon s'appelle Gérard Siracusa et qu'on n'aime pas les épinards.
Épinards.
Si tu n'aimes pas les épinards, écoute un peu que je te narre. La triste histoire de Bernard.
Bernard
était un jeune garçon qui n'aimait pas les épinards.
Je n'aime pas les épinards.
C'était la chanson de Bernard. Il préférait le cresson ou même le pâté de canard.
Tout, mais pas les épinards.
Je n'aime pas les épinards.
Son père, un jour, en a eu marre, il lui dit.
Je t'emmène chasser le canard et le sanglier, ça te changera les idées.
Je n'aime pas les épinards.
Chantait Bernard dans la forêt.
Dans la forêt de Troncée.
Un vieux renard malin,
malin,
caché dans les forêts,
l'entendit de très loin, n'en fit qu'une bouchée.
Si tu n'aimes pas les épinards et que tu vas dans la forêt, fais bien attention au renard qui se cache dans les fourrés, car il aime les petits bernards qui n'aiment pas les épinards.
Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si vous n'aimez pas les épinards, n'allez pas dans la forêt.
Non, surtout pas.
Alors, on va tricher un petit peu dans cet abécédaire, mais... Il y a un mot qui est le mot sirop. Quand on parle de médicaments, si Médicis aime l'épinard, qui aime le sirop?
Alors le sirop, c'est un mot arabe qui voulait dire d'ailleurs sucre. Et sucre, c'est un mot arabe. Hein. C'est-à-dire que parfois, pour définir un mot arabe, on est obligé de reprendre déjà un mot arabe.
Oui, parce que nous, on consommait de la mélasse plutôt.
Oui, voilà. Et sucre et sirop, un peu comme zéro et chiffre, sont des mots qui sont très proches, avec évidemment au départ l'idée d'un médicament, mais aussi l'idée très vite de quelque chose qui est en sirupeux, puisque l'adjectif français était tiré de ce mot importé, va entraîner toutes sortes de délicatesses, de douceurs, comme on disait, notamment les sorbets. Alors sorbet, qui voulait dire, dans le fond, sucrerie de citron, qui voulait dire dessert au citron. Et quand on dit un sorbet de citron, aujourd'hui, on est presque dans la répétition.
Mais limonade?
Alors limonade, c'est le limon. qui n'est pas le mot évidemment qui correspond à la Limagne, qui est ce qui se trouve au fond, dans le fond d'une vallée, à cause de la rivière, mais c'est le limon qu'on va retrouver dans lemon, en anglais, puisque les Anglais aussi vont adopter très rapidement des mots arabes, et qui va se transformer en limonade, limonadier, et avec toute une partie qui au début est médicale et qui très vite devient le régal des enfants. C'est-à-dire que souvent on se sert du citron et puis dès qu'il devient un peu gazeux, et bien ça devient quelque chose de délectable.
Et vous avez déjà chanté la chanson de Dick Annegarn ?
Non, jamais.
La limonade coule à flot dans mon auberge au bord de l'eau. Les enfants boivent de l'eau et du sirop. La rigolade prend assaut. Les bécassines au bord de l'eau. La vie est soif. La vivre la peine vaut.
Alors, si on reste dans les ailes, il y a le lilas.
Alors, le lilas, voilà quelque chose qui est vraiment frappant, parce que, c'est comme le jasmin, ça fait partie des deux plantes qui embaument nos jardins et ont aussi offert des parfums formidables aux dames, comme l'ambre.
C'est un très joli prénom, d'ailleurs, arabe.
Voilà, c'est Leïla, Lila.
Et Yasmina aussi.
Oui, et qui a été repris, par exemple, par Proust. Proust évoque des maisons qui sont couvertes de lilas. Et s'il y a quelque chose qui résonne vraiment très français, si je puis dire, c'est bien cette plante, cette belle lilacée qui permet d'embaumer les jardins. Donc on doit ça au monde arabe. Il y a eu à la fois l'irrigation, ça c'est une chose qui a permis évidemment de faire venir aussi des produits comme le riz, qui n'est pas un mot arabe. Mais
non, mais cette fameuse route de la soie
a permis
de traverser de l'Asie
de faire pousser des choses auxquelles on n'était pas habitué. Il y a eu le plaisir. Alors le plaisir des yeux, les fleurs, et puis... tout ce qui, évidemment, va aussi du côté de la suavité. Donc, on n'a pas beaucoup de mots d'amour, mais on a beaucoup de mots qui, à travers l'alimentation et à travers les parfums, démontrent une forme de finesse qui a marqué, dans le fond, le monde de l'Orient. Et les écrivains y étaient très sensibles.
Alors, dans les écrivains qui ont été très sensibles au lilas, il y a Marguerite Duras, et quand c'est avec la voix d'Elvin Sérig, c'est absolument délicieux.
Quand le lilas fleurira, mon amour, quand le lilas fleurira pour toujours. Quand le lilas fleurira, mon amour, quand notre espoir sera là chaque jour.
Alors quand le lilas sera là chaque jour, mais alors quand le lilas n'est plus là, que reste-t-il ?
Il reste les douceurs, je pense aux oranges par exemple, qui ont une histoire un peu particulière, parce que il s'agit du mot arabe naranj. Là, il n'y a pas de confusion. Et puis, ce mot est passé en Italie, dans d'autres pays aussi, bien sûr. Et il y a eu les pommes d'arange qui ont été la traduction d'un mot arabe qui était poumé d'aranja, naranja. Et on oublie le mot pomme qui signifie un fruit. La pomme d'Adam, c'était d'abord un fruit. Et on a, en France, une ville qui était évidemment très célèbre pour sa littérature et en même temps
son
histoire. Son opéra, Orange, et Orange n'a aucun rapport avec l'agrume, mais par frottement, par, on pourrait dire, attraction, les linguistes disent paronymique, on va dire par attraction des mots très proches, arrange est devenu orange. Puis il faut l'avouer, une arrange, c'est pas très facile à prononcer, une orange c'est plus doux, et quand on pense après au succès qu'a eu ce mot, orangeade, plus quelques marques de boissons, on s'aperçoit que c'est quelque chose de remarqué. Et il y avait aussi des orangers, alors non pas GER, mais GE accent aigu, qui étaient des sortes de douceurs en fin de repas. Et là, les écrivains sont merveilleux, parce que Guy de Maupassant, par exemple, dans ses Contes et Nouvelles, on est en 1884, a des phrases que je trouve fortes. « Les oranges mûrissent et les poitrinaires guérissent. » Très vite, on a compris que l'orange avait quelque chose de précieux, de délicat et de, le mot est à contre-emploi parfois dans sa sonorité, mais roboratif, c'est-à-dire permet véritablement de reprendre de l'énergie. Et ça, c'est très beau. Les frères Goncourt aussi hein, ont évoqué au théâtre, disait-il, dans les baignoires, après le drame, où le rire et le cintre pleuraient, on prenait des oranges. Et puis évidemment, on sait tous qu'on en a gardé une expression qui est l'orange de Noël, mais aussi apporter des oranges aux pauvres prisonniers, qui s'est parfois limité à la formule « je vais vous apporter des oranges ».
Mais Jean Pruvot, il me semble aussi que ça se chante, les oranges.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non. Vous êtes fou. C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi. Tu es méchant, il est.
Oui, alors qu'est-ce qui se passe quand on vole l'orange du marchand? On se retrouve en prison et on est obligé d'attendre ceux qui voudront bien nous apporter des oranges.
Oui, c'est exactement cela.
On n'aura pas
volé. On voit bien que c'est cette orange bleue hein, qu'évoquait Luard, puisqu'elle a même changé de couleur finalement à travers les surréalistes. Et c'est aussi une forme. Hein, on plonge la présenter aussi comme un fruit doux au toucher, sur lequel on peut appuyer moelleusement.
Et Hergé aussi, avec Tintin, les oranges bleues.
Oui, exactement.
Qui devait lire Éluard, entre autres choses. Alors, quel est le dernier mot qui pourrait nous permettre de terminer cet alphabet, la pastèque, le potiron?
Alors, pastèque et potiron sont des mots délicieux, d'abord parce que, si vous voulez, ils sont très proches, un peu de forme. Et puis, le potiron, avec son destin international, qui en a fait à la fois quelque chose qui correspond à une soupe délicieuse, mais en même temps, avec l'idée des fantômes et ces potirons qu'on a travaillé pour y mettre des bougies pour Halloween. Donc on a vraiment là l'idée de ce type de fruits, de légumes ou de baies qui font le tour du monde. Et c'est ça un petit peu qui fait le propre de cette langue arabe, notamment donc pour tout ce qui concerne l'alimentation. Alors la pastèque est un fruit, lui, qui évidemment n'était pas très connu en Europe. Il a fallu qu'il passe par l'Espagne et qui avait... Alors c'était l'idée un peu d'un champignon, pasteca, avec l'idée de quelque chose d'assez gros. Puis il y a quelque chose de délicieux aussi. Alors tout à l'heure on évoquait la mousseline, mais finir avec du mocha, soit en café ou un mocha, ça a quelque chose quand même de délicat. Je trouve que tous les mots qui nous ont été donnés par la langue arabe sont délicats. Le candi, moi quelque chose. Alors évidemment, harissa sera autre chose, mais là on est dans un autre emprunt, type d'emprunt. Ce sont les mots qui viennent par donc la colonisation, la décolonisation. Moi j'ai en tête mon grand-père qui pour la première fois qu'on entrait dans un couscous. C'est comme ça qu'on disait, alors qu'évidemment il y avait bien d'autres plats. Et en bon boulonnais, habitué au lapin, au pruneau, et pas du tout au couscous, ça a confondu la sauce tomate et l'harissa. Et je dois dire que c'est la première fois que j'ai entendu mon grand-père jurer.
Ben, merci beaucoup Jean Pruvot pour ce petit voyage sur le bout de la langue. Il faut consommer l'harissa avec modération, surtout sur le bout de la langue. Donc je recommande votre livre qui s'appelle Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit, et c'est chez Jean-Claude Lattès.
Attention, hein. 3, 4.
Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son est de Delphine Baudet et la mise en onde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, dans toutes les langues, Et puis vous pouvez aussi la télécharger. Et dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture. Hey, 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 hey.